Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy.
Avec votre rendez-vous dans cette demi-heure, 18h32-19h, les grandes voix chaque soir en direct avec vous aussi, chers auditeurs, pour réagir, pour nous livrer vos impressions. Votre mot à dire, c'est au 39-21. J'accueille ce soir dans ce studio Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Bonsoir Gérard Carrérou.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints ce soir. Et je le connais, tiens, Bruno Jeudy. Bonsoir Bruno Jeudy.
Bonsoir Nathalie.
De Paris Match.
Ravie.
Merci d'avoir fait un détour par le studio d'Europe 1 ce soir. Alors c'est sans doute l'un des dossiers politiques les plus sensibles de la rentrée, le projet de refonte du système des retraites. Et les choses ont considérablement évolué entre hier et aujourd'hui. Hier soir, c'est Emmanuel Macron dans le journal de France 2.
Ce que je veux, pour le dire en des termes très simples, c'est qu'on fasse deux choses. Un, que notre régime, quand il rentre en vigueur en 2025, il soit équilibré financièrement. Et deux, que ce soit juste en termes de cotisation. Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge.
Sacrée évolution, Bruno Jeudy.
Ben oui, c'est la surprise de la rentrée.
Que s'est-il passé dans la tête d'Emmanuel Macron ?
Il y a plusieurs possibilités. Une interview peut-être un peu longue et finalement cette question sur les retraites en fin d'interview et le président surprend tout le monde et décide de déminer la rentrée. Moi, je pense qu'il faut arrêter de se raconter des histoires. De toute façon, c'est une manœuvre pour éviter de repousser le moment. Il faudra bien le faire à un moment, l'âge de départ à la retraite. Et qu'au fond, Emmanuel Macron, qui a fait travailler Jean-Paul Delevoye, qui a plutôt bien travaillé, c'est plutôt un rapport intéressant. Je ne suis pas sûr que ça ait convaincu beaucoup de gens, cette histoire de points. C'est assez compliqué, il y aura beaucoup de perdants. Et Macron l'a dit hier soir, il y aura des perdants. Les infirmières, les enseignants.
Les enseignants,
donc, il voit tout ça.
Les aides-soignants.
Et puis, il a quand même bien vu ce qui s'est passé dans le pays. Il y a encore les cendres là, qui sont là, toutes chaudes et qui peuvent repartir. Et on sait que les réformes des retraites dans tous les mandats présidentiels, et on en a vécu quelques-uns, c'est toujours la réforme explosive. Et là, il pouvait remettre le feu et il a décidé de
calmer le jeu.
De calmer le jeu.
Alors, Michel Cotta, quelle lecture vous en faites ? On calme le jeu ou, ça y est, elle est enterrée, cette réforme ?
Non, je ne pense pas que la réforme soit enterrée, mais je me pose de problèmes. Le premier, c'est est-ce qu'il a reculé devant l'ampleur du conflit éventuel ? Est-ce qu'il a voulu se rapprocher de la CFDT, donc diviser les syndicats, c'est possible. Mais la deuxième interrogation, c'est, je ne sais pas si techniquement, ma science est nulle de ce point de vue-là, mais il doit y avoir des gens qui doivent discuter, on peut faire reculer les cotisations en faisant la retraite à points. Je ne suis pas sûr que ce soit compatible. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'aurait pas seulement reculé sur la retraite et la durée de cotisation, mais aussi sur la retraite à points. C'est ce qui reste quand même. C'est le grand flou qui domine.
Ouais. Alors, c'est le grand flou. Et d'ailleurs, Gérard Carrérou, c'est tellement flou qu'il essaye de se montrer pédagogue. Alors, on a vu Emmanuel Macron avec un côté autoritaire. C'est le nouveau Emmanuel Macron avec sa jambe gauche là, qu'on découvre depuis hier soir.
Écoutez, j'ai essayé moi de réfléchir en me disant, au fond, il y a eu deux surprises importantes de ces trois derniers jours. La surprise du G7 et du comportement de Macron au G7 faisant venir le ministre iranien, etc. On l'avait entendu sur Europe 1. Et puis, la surprise d'hier soir sur les retraites. Ouais. Et je me dis, au fond, c'est effectivement pas le hasard. Ces deux surprises en si peu de temps qui sont, quelque part, l'archétype de la rentrée de Macron. Et c'est, je dirais, c'est double face Macron. C'est Macron, premier visage, le Macron, sur la scène internationale, qui se pose en interlocuteur de Trump. Il n'y avait que Trump et lui qu'on voyait. Pratiquement les autres étaient fondus dans le décor. Et puis qui ferraille avec... qui s'entend bien avec Trump, qui se cajole avec Trump, etc. Et puis qui ferraille avec Bolsonaro.
C'est pas
fini. Et puis il y a l'autre Macron, alors qu'on a vu hier soir, c'est le Macron au contraire, qui est là, tacticien, prudent,
pédagogue,
il a senti que ça montait, tous les syndicats avaient fait monter la sauce, y compris la CFDT. Or, Macron ne peut pas se passer de la CFDT pour ce deuxième...
La CFDT qui n'a pas applaudi d'ailleurs.
Oui, mais il ne peut pas s'en passer. Donc, il y a bien, vous voulez, il est la lièvre et la tortue à lui tout seul.
La CFDT de Laurent Berger qui n'a pas vraiment applaudi. Alors, ils auraient pu affirmer un vrai satisfecit, Bruno.
Ils ont ont été... matin, il... ouais, enfin, bon, lâche pivot qui disparaît, ça lui va bien.
Ouais, enfin, il n'a pas applaudi quand même. Laurent Berger, prudent.
Et je suis d'accord avec Michel, il y a quand même, même s'il ne l'avouera jamais, Macron a compris et tout le monde autour de lui a dit, Richard Ferrand le premier et d'autres, qu'on ne fait pas de réforme des retraites en France sans la CFDT.
Ce qui est drôle, c'est que j'ai remarqué dans son discours, d'une façon générale, le mot « ensemble ».
Oui.
C'est-à-dire que maintenant... Il dit tout le temps, on doit faire le G7 ensemble, voilà. On fera la recette ensemble. Et ça, bon, c'est la recette gilet jaune.
C'est
si
ça, c'est l'après gilet jaune.
C'est le président impérial qu'on a connu pendant les deux prochaines premières années.
Après le
c'est l'anti-président.
L'anti-président jupitérien. Attendez, Marie est avec nous, s'il vous plaît. Je sais que les retraites, évidemment, c'est un sujet qui fait parler. D'ailleurs, vous êtes très nombreux à nous contacter au 3921. Marie, vous êtes, vous, du Val d'Oise. Merci de nous contacter ce soir en direct. Bonsoir, Marie. Vous, vous êtes retraité depuis 3 ans, c'est ça? Vous avez toujours travaillé dans le privé. Qu'est-ce que vous dites ce soir? C'est un satisfecit pour vous? Vous êtes rassurée?
Bah, écoutez, en tous les cas, je suis rassurée pour mes enfants, déjà. Je trouve qu'une durée de cotisation plus longue serait quelque chose à envisager. Je pense que c'est ça qui est important, plus que l'âge. Hein. Vous avez des gens qui font des études et qui commencent à travailler plus tard. Et puis, vous en avez d'autres qui commencent jeunes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne suis pas sûre qu'on ait répondu à la question du fait qu'il y a trop d'écart entre certains retraités, enfin, certaines retraites. Il y a des gens qui prennent leur retraite très, très tôt. Ça, ce n'est pas vraiment justifié. Hein. Ils sont dans les bureaux, il n'y a pas vraiment de raison. Et puis, il y en a d'autres qui la prennent beaucoup plus tard. Donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait voir là-dessus. Bon. Et puis, surtout, ce qui est très important, c'est maintenir la solidarité entre les générations.
Alors, en tout cas, vous êtes rassurée, vous nous l'avez dit. Moi, je voudrais qu'on fasse un petit tour d'Europe dans quelques instants. Merci beaucoup, Marie, qui nous appelait du Val d'Oise. On va prendre d'autres auditeurs au 3921 en direct sur Europe 1, parce que les retraites, ça vous concerne, ça nous concerne tous.
Il est 19h40 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. 18h41 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Bruno Jeudy de Paris Match. Et vous aussi, bien sûr, toutes vos réactions, vos questions au 3921, le standard d'Europe 1 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Est-ce qu'on pourra retarder indéfiniment comme ça l'âge de la retraite? C'est ce dont on parle évidemment ce soir. Est-ce qu'on pourra passer à côté de cette réforme des retraites? Raymond Soubi, ancien conseiller aux affaires sociales de Nicolas Sarkozy, était ce midi l'invité de Raphaël Duchemin.
Au fond, il s'agit quand même d'aboutir à ce que l'âge moyen à la retraite soit retardé pour des raisons d'équilibre financier. Ça va conduire un certain nombre de personnes à travailler en tout cas au-delà de 62 ans, mais c'est l'objectif recherché. De toute manière, on ne peut pas y échapper. Donc il ne faut pas tourner autour du pot, si vous me permettez. C'est une manière plus douce et plus juste, mais au fond, pour atteindre le même objectif.
Voilà, on pourra pas y échapper. Michel Cotta, Gérard Carrérou, Bruno Jeudy, à l'étranger, ils l'ont fait. À l'étranger, ils l'ont fait. Pas partout, hein, évidemment, mais ils l'ont fait dans un certain nombre de pays.
Tout le monde pense que tôt ou tard, on ne pourra pas garder sa retraite à 62 ans. D'ailleurs, quand on interroge les gens par les sondages, ils disent tous, ils voient bien que la durée de vie augmentant, on ne peut pas passer plus de temps à la retraite. Donc, ça me paraît évident. Le problème, c'est qu'au fond, c'est presque la presse, nous, dès qu'il y a un projet de ce genre, disons, ah là là, mais ça va être un truc terrible, ça. Et puis les syndicats qui effectivement ralentissent. Mais sur l'état d'esprit des Français, tout le monde dit il faut reculer. Et puis quand ça s'applique à soi, tout le monde recule et dit ah non, peut-être qu'on peut attendre. Voilà, le vrai problème, il est là. Mais tout le monde sait que 63, 64, 65 ans, ce sera obligatoire.
Ouais, tout le monde sait, Michel.
Ça, il y avait deux.
Il faudrait venir.
Tout le monde sait, mais on voit bien que dans les enquêtes d'opinion, tout le monde n'est pas prêt à ça. Qu'en France, quand il a fallu revenir sur la retraite à 60 ans, repasser à 62 ans, ce qui a été fait par Nicolas Sarkozy, François Fillon en 2008, 2009, ça a été des manifestations monstrueuses. À l'époque, d'ailleurs, il y avait déjà le débat, est-ce qu'on ne va pas tout de suite à 63? Objectivement, de toute façon, l'erreur originelle, elle remonte lorsqu'on est revenu sur la retraite à 65 ans.
Ils ne sont pas idiots, ils comprennent, d'accord. Ils protestent, mais ils comprennent que de toute façon, il y a un déséquilibre qui se crée entre la longueur de la vie et l'âge de la retraite.
Oui, il y a deux logiques, mais il y a une fatalité. Et la fatalité, c'est ce que dit M. Soubi et ce que disent un certain nombre d'observateurs. On sait très bien qu'on sera obligé de travailler jusqu'à 64, 65 et parfois au-delà.
D'ailleurs,
comme
ça ne nous fait pas peur.
Comme nos voisins. D'ailleurs,
ça vous va très bien.
D'ailleurs, nous, on est des experts dans ce domaine. Non, mais c'est pas ça. Il y avait deux logiques pour Macron. Il y a le Macron qui aurait été simplement le continuateur de ce qui s'était fait dans les 10 dernières années, les réformes successives, donc on serait passé, effectivement, on aurait un petit peu allongé la durée de cotisation, etc. Là, il aurait été simplement dans la... Mais il avait voulu être innovateur, et le travail... Moi, je trouve remarquable le travail qu'a fait Delevoye.
Alors justement, je
ne sais pas dans quel état est Delevoye.
Il est désavoué
il va dire qu'il avait ouvert toutes les portes. Moi, je pense quand même qu'il ne se serait pas autant engagé sur l'âge pivot s'il n'y avait pas vraiment cru. Je pense que M. Delevoye, que j'ai aperçu là cet été en vacances, je pense que M. Delevoye, il avait effectivement son idée, l'âge pivot, avec une possibilité
décote, etc.
Ouais. Je pense que là, Macron le remet. C'est-à-dire, il y a quand même eu presque un an de discussion avec Delevoye, et maintenant on nous remet un calendrier avec 6 mois de concertation.
Mais Gérard, la difficulté dans cette affaire, c'est qu'on sait que ce type de réforme ne peut passer, et c'est toujours difficile, en début de mandat. On est bientôt à la mi-mandat. Déjà, il y a du temps perdu. Objectivement, aujourd'hui, faire une réforme des retraites dans la deuxième partie du mandat, je leur souhaite bon courage. Parce qu'en plus, avec les zigzags qu'ils sont en train de prendre, ce sera très
difficile. Oui, ça va être une usine à gaz.
Il faudra bien dire la vérité aux Français.
La question se pose quand même. Est-ce qu'on s'est dit, on est un certain nombre à s'être dit après la crise des Gilets jaunes, les réformes voulues, elles ont pris un coup et vraisemblablement, il n'y en aura pas. Alors, la question est de savoir si c'est un coup d'arrêt ou si c'est un aménagement qui est, comme l'a dit Gérard, dans le droit fil de ce qu'ont fait avant lui tous les gouvernements.
Oui, ça sera moins spectaculaire, en tout cas, que ce qui avait été prévu au départ.
Ouais. Bruno, je dis, est-ce que ça va être le grand débat national à chaque fois qu'on a une question piège, j'allais dire une question compliquée dans ce gouvernement ? Parce qu'avec cette réforme des retraites, on voit bien qu'on freine des quatre fers, voire on enterre sans le dire. Et là, on comprend qu'Édouard Philippe va participer à des concertations avec les Français. Donc on se fait le grand débat national à chaque question compliquée ?
De toute façon, il l'a dit, Emmanuel Macron, après cet hiver compliqué, que le grand débat ne s'arrêterait pas avec le grand débat. Il continuerait sans doute jusqu'à la fin du mandat. Alors on ne peut pas reprocher Emmanuel Macron d'être jupitérien et lui dire il décide tout d'en haut.
Bah,
là maintenant,
ça.
Il prend la méthode du grand
joueur.
Débat.
Oui.
Je pense qu'on est sans doute allé trop loin d'un côté. Il ne faudrait pas aller trop loin de l'autre côté.
Mais le grand débat l'a sauvé quand même.
Le grand débat l'a sauvé
de la crise des Gilets jaunes.
Maintenant, est-ce que le grand débat, ça peut permettre d'accoucher d'une réforme des retraites, un truc quand même très compliqué.
Très compliqué, extrêmement, avec
La retraite n'est pas le seul domaine. Dans lequel, effectivement, on met de l'huile dans les rouages. Il y a aussi, on l'a vu aujourd'hui, la réforme de Jean-Michel Blanquer.
Les enseignants, évidemment.
On va en parler, évidemment, avec nos auditeurs. Et à 19h30, bien sûr, ce sera le débat du grand journal du soir. Brigitte est avec nous au 39-21. Et vous êtes vraiment nombreux ce soir à nous appeler sur ce sujet des retraites. Brigitte, vous êtes soignante, vous, et vous êtes dans le Finistère. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Qu'est-ce que vous dites de cela, vous, Brigitte ?
Vous
n'êtes pas encore concernée ?
Je ne suis pas encore concernée, mais j'approche de la soixantaine. Mmh. J'ai commencé à travailler tôt, à 17 ans. Et voilà, moi je trouve que c'est très bien de tenir compte de la durée de cotisation, bien que je comprenne bien que ça ne pourra pas durer et qu'il faudra travailler plus. Mais moi, la question que je me pose, et c'est un peu le quotidien avec les collègues et avec nos amis, c'est arriver à plus de 60, 62, 63, c'est que dans nos entreprises, nous ne sommes plus, la force vive. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être faire quelque chose aussi pour qu'on soit mieux traité, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que vous n'êtes plus dans le tempo, vous n'êtes plus aussi rapide. Maintenant, tout va tellement vite autour de nous, dans tous les domaines, que ce soit la santé, voilà. Moi, je parle de la santé parce que c'est un domaine que je connais.
Ouais,
donc, je trouve qu'il faudra 64 ans, s'il faut en venir un jour, 63, 62,
il
mais
faut
au moins
que ce soit avec les conditions qui vont avec.
Les conditions de travail. Parce que là, on parle d'âge, je vous entends parler d'âge, mais on n'est pas des
les
robots,
aménagements,
pas des
les conditions, les assouplissements donc, qui vont avec pour pouvoir vraiment être efficace. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacqueline, d'avoir réagi depuis le Finistère. Évidemment, vous êtes anxieuse et pour cause et vous êtes nombreux. On se retrouve dans un instant. Ne bougez pas, les grandes voix reviennent. Lisa.
Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec les grandes voix et avec vous, Nathalie Lévy.
Et oui, on va quitter la France, on va se diriger vers l'Amazonie parce que on est dans une escalade verbale. C'est vraiment ce qui se joue là, à l'heure où nous parlons. Bolsonaro, le président brésilien, en a remis une couche. Il exige maintenant des excuses de la part d'Emmanuel Macron. J'ai l'impression qu'on marche un peu sur la tête. Je ne sais pas quelle lecture vous en faites. Michel Cotta, il... Et puis quoi encore, c'est ce que vous dites ? Non mais attendez, il faut quand même un tout petit peu refaire le film pour les auditeurs qui nous rejoignent dans un instant.
Le grand journal du soir, jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. 18h50 sur Europe 1 dans votre grand journal du soir, la suite du débat des grandes voix avec ce soir autour de vous Nathalie Lévy, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Bruno Jeudy de Paris Match.
On est en Amazonie, en fait on est entre la France et l'Amazonie parce que on se pose la question de savoir si les codes diplomatiques sont en train de voler en éclats entre le Brésilien Jair Bolsonaro et le président Emmanuel Macron. Alors il se dit prêt, Bolsonaro, à discuter d'une aide du G7 pour lutter contre les incendies en Amazonie si seulement, si Emmanuel Macron retire ses insultes. Je vous posais la question, Michel Cotta, j'attendais votre réponse.
Écoutez ça, vraiment, j'espère pour Emmanuel Macron qu'il ne songe même pas à faire des excuses. C'est effectivement, il a traité de menteur, on est d'accord, Bolsonaro, pour être juste. Mmh. Mais il est vrai que Bolsonaro avait pris des engagements sur le climat qu'il n'a pas tenu. Bon, de là à se faire injurier, lui, sa femme, et en plus par un ministre du gouvernement
de l'éducation,
Bolsonaro, non, franchement, pas d'excuses. En plus, ça fera... Ce qui est formidable, c'est qu'on demande des excuses avant d'accepter une offre. Généralement, si on refuse l'offre, à rigueur, on ne demande rien.
Bruno Jeudy, il lui dit, voilà, le président brésilien, il accuse Emmanuel Macron.
Ouais, chantage.
Vous avez dit, j'ai menti, je veux des excuses. Est-ce que c'est censé d'espérer des excuses du président français ?
Mais je ne sais pas, je croyais que l'urgence à entendre l'ambassadeur du Brésil en France et d'autres, l'urgence c'était de combattre les feux
de sauver
en Amazonie.
Mais
apparemment,
alors même si la générosité des grandes puissances mondiales est quand même, on va dire, assez modeste, tout est bon à prendre et il devrait s'en emparer, quitte à continuer à critiquer Emmanuel Macron par ailleurs, qui... je doute, lui présente quelconque excuse. D'ailleurs, je ne vois pas au nom de quoi.
Au nom de quoi, Gérard?
Non, il y aura pas
d'excuse. Au nom de l'ingérence
Non, il n'y aura pas d'excuse, mais le feuilleton va continuer. On a compris un truc simple. On avait l'habitude, depuis 2 ans, de voir s'opposer Macron et Trump. Aujourd'hui, Trump est devenu l'ami du G7. On le cajole, on s'embrasse, etc.
Et
il nous fallait un nouvel adversaire principal sur la scène mondiale. Bolsonaro, c'est exactement ce qu'il nous fallait. C'est la tête de Turc, si j'ose dire, idéale.
Il tweet encore plus vite que Trump.
Il est un peu facho. Il a tout ce qu'il faut pour plaire. Mais en même temps, je dirais une chose quand même sérieuse. Il ne faut pas non plus quand même oublier que la souveraineté nationale, ça existe.
Ça,
nous qui avons été tellement, à juste titre avec le général de Gaulle, chatouilleux sur la souveraineté nationale, on ne va pas commencer maintenant à nous dire qu'il faudrait créer une sorte de droit d'ingérence écologique qui dirait, par exemple, on va pouvoir intervenir quand
c'est ça, mais ça, on est bien d'accord.
Et ça, vous voulez, c'est un danger. Il ne faut pas tomber dans ce danger.
Oui, mais sans tomber dans ce danger, effectivement, tu as raison. Moi, j'avais trouvé que avant de parler d'Amazonie, Emmanuel Macron aurait dû se concerter avec les autres pays, Uruguay, etc., concernés par les problèmes de l'Amazonie. Bon, ça, c'est un compte. Deuxième chose, c'est que c'est purement échange purement et simplement un chantage de Bolsonaro. Parce qu'au fond, il ne veut pas arrêter les feux. Il ne veut pas arrêter les feux, finalement. C'est ça que ça prouve. Ouais. Et au fond, il dit « Ah ben, si je n'ai pas d'excuses, je n'arrête pas le feu. Ouais. » C'est quand même énorme face
à une catastrophe difficile. On se demande quel est le sens des priorités. Mais la question, elle va au-delà aussi. Est-ce que la diplomatie à mots couverts, Bruno Jeudy, c'est terminé? Et puis les précédents avec Trump, etc.
Il y a un changement qui est imposé par l'apparition de leaders nationalistes, populistes, appelez-les comme vous voulez, sur la planète et dans des pays qui ne sont pas du tout petits, les États-Unis, le Brésil, il y a le Philippin, il y en a 2-3 autres comme ça qui apparaissent, sans compter ceux qui sont en Europe, de Salvini à Orban. Donc de toute façon, il y a déjà, j'allais dire, un code qui a volé en éclats, un code diplomatique qui a volé en éclats.
Bruno, sûr, le populiste par le populaire, en l'occurrence. Oui, oui, oui. Et on ne peut pas demander à des leaders dont on définit la typologie comme les populistes du siècle, on ne peut pas leur demander d'avoir les manières du Quai d'Orsay. Tout en nuance et tout en politesse.
La question, aussi, c'est que cette aide de 20 millions de dollars proposée par les pays du G7...
C'était ridicule, ça.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, il peut se permettre de refuser parce que cette aide, elle est anecdotique?
Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on a pour... Franchement, qu'est-ce qu'on a pour 20 millions de dollars aujourd'hui dans le moindre grande démarche? C'est rien du tout. Entendu, je me suis dit, ils se sont peut-être trompés, ils voulaient peut-être dire 20 milliards.
Voilà, les 7 pays les plus industrialisés qui proposent, Michel.
Plus loin,
non,
si on a un dialogue.
Franchement, Michel, c'était ridicule.
Il y a 30 ans,
il y a 30 ans,
c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait cette réponse-là.
À l'époque, on était à 290 millions de dollars.
Voilà.
Mais non, mais simplement, je vous rappelle, c'est pas du tout dans les mêmes circonstances. Dans les circonstances là où il y a un affrontement direct entre deux chefs d'État sur un sujet qui est
le fond vert du monde. De la planète et qui est en danger,
alors
on se donne les moyens de le faire.
Donc ça tombe dans ce que dénonce Gérard, on intervient, l'intervention.
Voilà, alors en tout cas, la question effectivement du caractère des dirigeants, on l'a dit, vous nous dites, vous, Emmanuel Macron, il a intérêt à se taire, ni plus ni moins.
Non, pas forcément, non, il va pas
tuer Michel. Il ne s'excusera pas, il défendra ses positions.
Et le nationaliste, parce que c'est un nationaliste avant tout, Bolsonaro, soutenu par le courant nationaliste chez lui, ils sont chatouilleux sur l'indépendance nationale.
Je pense qu'ils auraient été encore plus forts, les sept puissances, s'ils avaient offert une aide beaucoup plus forte.
Oui,
et là, ils auraient mis le Brésilien qui est du mur.
C'est que la somme n'est pas à la hauteur de l'urgence.
Absolument.
Merci à tous les trois. Merci beaucoup Michel Cotta, Gérard Carrérou et Bruno Jeudy de Paris Match. Le rendez-vous des grandes voix, c'est tous les soirs, hein, vous l'avez compris, chers auditeurs. C'est tous les soirs de 18h30 à 19h pour décortiquer l'actualité du jour sur Europe 1. Europe 1.